Lettre 21. Suite de la lettre d'Evelina. La journée d'hier fut si fertile en événements qu'elle emplirait un volume entier. Dans l'après-dîner, à Berry Hill, je dirai le soir, car il était près de 6 heures, pendant que Miss Mirvan et moi nous étions occupés des soins de la toilette et du plaisir qui nous attendait à l'opéra, nous entendîmes une voiture s'arrêter devant la porte. Nous crûmes d'abord que c'était Sir Clement Willoughby qui, avec son assiduité ordinaire, venait pour nous accompagner à Haymarket. Mais quelle fut notre surprise lorsque nous vîmes entrer dans la chambre les deux demoiselles Branton. Elles s'avancèrent vers moi avec beaucoup de familiarité en me disant « Bonjour, cousine, comment vous va ?»« Oui, da, nous vous attrapons devant le miroir. Mon frère le saura, je vous en réponds. » Miss Mirvan, qui ne les connaissait point et ne savait que penser de cette apparition, marqua son étonnement d'un air tout à fait plaisant. L'aînée des Branton m'annonça enfin le sujet de leur visite. « Nous venons, dit-elle, pour vous mener à l'opéra. Mon père et mon frère vous attendent là-bas et nous irons prendre en passant votre grand-mère. » « Je suis fâchée, répondis-je, que vous vous soyez donné cette peine. Je suis déjà engagée. » Engagée ? Et qu'est-ce que cela fait, miss ? Cette jeune demoiselle se chargera de vos excuses. « Je le voudrais bien, lui dit Miss Mirvan, mais je serais fâchée moi-même d'être privée de la société de Miss Anville. » « Cela n'est pas joli, reprit Miss Branton. Considérez, madame, que nous ne sommes venus que pour faire plaisir à notre cousine. C'est pour l'amour d'elle que nous allons à l'opéra et nous avons fait un grand détour pour la venir prendre. » « Je vous suis infiniment obligée et je regrette bien de vous avoir fait perdre tant de temps. Mais je ne puis qu'y faire, j'ai donné ma parole sans pouvoir me douter de votre invitation. »« Mais que signifie cela ? » interrompit Miss Polly. « Faut-il donc tant de cérémonies avec vous ? Et d'ailleurs, ceux avec qui vous avez fait partie vous sont-ils plus proches que nous ? » ?»« Je vous prie de ne pas insister davantage, il m'est impossible aujourd'hui d'être des vôtres. » Nous étions venus exprès de la cité. Et puis votre grand-mère vous attend. Que lui dirons-nous ? Dites-lui, je vous prie, que je suis mortifiée d'avoir déjà pris des engagements. Et avec qui ? Avec Madame Mirvan et une grande société. Et de quoi est-il donc question pour que cette partie vous tienne tant à cœur ? Nous allons à l'opéra. Oh, ma chère, si c'est là tout, qui nous empêche de rester ensemble ? Je fus extrêmement décontenancée de cette proposition hardie. La rusticité des demoiselles Branton diminua la peine que je me faisais de refuser. Quand même j'aurais voulu les faire admettre dans notre coterie, leur habillement me l'eût défendu. Et comme elles ne semblaient pas s'en douter, je me vis obligée de leur faire sentir mes raisons avec tout le ménagement dont j'étais capable. Cette explication leur fit de la peine. Elles me demandèrent où était ma place. « Dans l'amphithéâtre, leur répondis-je. Hey, »« Hé ! » reprit Miss Branton, « j'ignorais que ma robe ne fût pas assez belle pour l'amphithéâtre. Mais allons-nous-en, Polly. Si Miss Anville ne nous trouve pas assez bien mise pour aller de pair avec elle, elle n'a qu'à chercher mieux. » J'allais leur faire comprendre que l'amphithéâtre demande autant de parure que les loges. Mais elles étaient trop piquées pour m'écouter davantage. Elles sortirent de fort mauvaise humeur en disant qu'elles étaient fâchées de m'avoir dérangée, mais que je ferais bien d'être moins fière avec mes parents. Je voulus me justifier et j'allais les prier de se charger de mes excuses auprès de Madame Duval. Mais elles s'enfuirent brusquement et, n'étant pas habillée, je ne pus les suivre. Je leur entendis seulement dire en partant « Sa grand-mère sera dans une belle colère, cela fera une bonne scène ». Quelque désagréable que me fût cette visite, je fus bien aise d'en être débarrassée et je n'y pensais plus. Bientôt après, Sir Clément arriva et nous descendîmes. Madame Mirvan fit servir le thé et nous étions engagés dans une conversation assez animée lorsque le domestique vint annoncer Madame Duval qui le suivit de près. Elle avait le visage en feu et ses yeux étincelaient de colère. Elle s'approcha de moi à grands pas. « Oui, dame, miss, me dit-elle, vous refusez de venir me voir, et qui êtes-vous, s'il vous plaît, pour oser me désobéir ?» J'étais hors de moi, je ne répondis point. Je voulus me lever, mais je ne le pus. Je demeurai muette et immobile. Tout le monde était décontenancé. Il n'y eut que Madame Mirvan qui tint bon. Le capitaine, prenant un ton d'autorité, dit à Madame Duval. « Qu'y a-t-il ici, ma belle, qui vous mette tant en colère ?»«
Cela ne vous regarde pas, » lui répondit-elle. « Je n'ai aucun compte à vous rendre. »
« Vous n'y êtes pas, Madame la Furie. Sachez qu'il n'y a que moi dans ma maison qui ose se mettre en colère. »«
Je vous en défie, et sans vous en demander la permission, je veux m'emporter autant qu'il me plaît. Arrangez-vous en conséquence. Quant à vous, Miss, je vous ordonne de me suivre sur l'heure, ou bien vous vous en repentirez toute votre vie. »
En prononçant ces paroles, elle s'élança hors de la chambre. Je fus saisi d'une frayeur mortelle et je pensais tomber à la renverse. Mon cœur n'est pas fait aux mauvais traitements et aux menaces.
« Ne vous alarmez pas, mon amour, » me dit Madame Mirvan. « Demeurez tranquille. Je vais trouver Madame Duval et j'essaierai de lui faire entendre raison. »
Miss Mirvan fit tout ce qu'elle put pour me consoler. Sœur Clément s'intéressa également à ma situation d'une manière dont je lui sus gré.
« Au nom du ciel, me dit-il, calmez-vous, madame. Les emportements de cette créature ne méritent que du mépris. À quel titre prétend-elle vous faire la loi? Laissez-moi lui parler. »
« Non, pas pour tout au monde. Je ferais mieux, je crois, de la suivre. »«
La suivre, chère Miss Anville, voudriez-vous vous exposer aux fureurs d'une folle? Car quel autre nom donner à une femme qui se démène avec cette insolence? Croyez-moi, faites-lui dire de quitter la maison sur le champ et de ne plus reparaître devant vous. »«
Ah, monsieur, vous ne savez pas de qui vous parlez. Il me siérait mal d'en user ainsi avec elle. »
« Et pourquoi? Quel scrupule vous faites-vous de la traiter comme elle le mérite ?»
Je vis alors que son intention était d'approfondir quelles pouvaient être mes liaisons avec Madame Duval. J'étais trop honteuse de lui appartenir de si près pour oser répondre. Je priai Sœur Clément de laisser agir Madame Mirvan. Elle rentrait dans ce moment. Avant qu'elle eût le temps de parler, le capitaine s'écria. « Eh bien, ma bonne, qu'est devenue notre Française? Est-elle un peu rafraîchie ? Sans quoi je lui en indiquerai un excellent moyen.
Ma chère Evelina, me dit Madame Mirvan, j'ai tâché en vain de l'apaiser, j'ai allégué vos engagements. J'ai promis que vous l'accompagneriez un autre jour. Mais tout est inutile et je crains bien que si nous continuons à lui résister, elle n'en vienne à une rupture ouverte et c'est ce qu'il faut éviter pourtant.
J'irai donc avec elle, car également ma soirée est déjà perdue et je n'aurai nulle part au plaisir.
Ma résolution déplut à Sœur Clément et il s'employa de son mieux pour me faire rester. Je le priai poliment d'épargner ses instances et j'ajoutai que je ne me ferais certainement pas presser si ma complaisance n'était indispensablement nécessaire. Il m'offrit son bras pour descendre, mais le capitaine lui dit de demeurer, qu'il voulait me servir d'écuyer parce qu'il avait encore une pilule à faire avaler à la vieille Française. Nous la trouvâmes dans la salle d'en bas.
« Vous voilà donc enfin, Miss. Vous vous donnez de jolis airs. Ma foi, si vous n'étiez pas venue, vous pouviez vous en passer et rester mendiante toute votre vie. »«
Ouais, madame, » s'écria le capitaine, « êtes-vous toujours en colère? Voici un conseil pour vous rafraîchir. Allez trouver votre ami, Monsieur Croque-en-Jambe. Faites-lui mes compliments et priez-le, s'il fait quelque cas de votre santé, qu'il vous administre encore un bain comme celui de la soirée de Ranelagh. » Il comprendra bien ce que je veux dire et il vous rendra ce service par égard pour moi.
Allez, lui répondit Madame Duval, vous ne méritez pas qu'on vous réponde, vous êtes un vilain brutal.
Partons, mon enfant.
Écoutez, madame, vous ferez bien de ne pas dire des injures, sans quoi je suis homme à vous montrer la porte.
Je saurai, parbleu, la trouver sans vous.
Elle sortit en grande hâte. Je montai avec elle dans un fiacre. Avant notre départ, le capitaine eut encore le temps de lui crier hors de la fenêtre.
« Ah, ça, madame, n'oubliez pas mon message pour monsieur. »
Vous pensez bien que notre course ne fut pas des plus agréables. J'ignore qui de nous deux était la plus mécontente, quoique par des motifs très différents. Cependant, Madame Duval se remit bientôt. Nous fûmes à peine sortis de notre rue qu'un homme courant à toutes jambes arrêta la voiture. Il s'approcha de la portière et je le reconnus pour un des domestiques du capitaine. Madame Duval demanda ce qu'il lui voulait. Il lui répondit en ricanant et tout hors d'haleine.
Mon maître vous fait ses compliments et me charge de vous dire qu'il souhaite que votre accès soit passé. Hi hi hi!
Tiens, coquin, voilà pour t'apprendre à te moquer une autre fois de tes supérieurs. Fouette cocher!
Le domestique était dans une colère violente et il jurait horriblement. Mais nous le perdîmes bientôt de vue. Madame Duval était transportée de fureur. Elle s'exhala en invective contre le capitaine et elle menaça à diverses reprises de retourner chez lui pour l'accabler de reproches. Elle eût tenu parole assurément si M. Mirvan n'avait réussi à se faire un peu craindre. Arrivés chez Madame Duval, nous trouvâmes les Brampton qui nous attendaient à portes ouvertes avec beaucoup d'impatience. Le père m'accosta en disant « Il me semble, miss, que vous auriez pu tout aussi bien venir d'abord avec vos cousines. C'est jeter l'argent que de payer deux voitures pour une course. »
« N'en parlez pas, mon père, » répondit le jeune Brampton. « J'en fais mon affaire. »
« Je ne sais que trop, » répliqua le père, « que tu es toujours prêt à dépenser l'argent plutôt que d'en gagner. » Je voulus les mettre d'accord en acquittant la dépense à laquelle j'avais donné lieu. Mais ils refusèrent mon offre et la voiture fut retenue pour nous mener à l'opéra. Les demoiselles examinèrent fort attentivement ma parure, qui, en effet, cadrait mal avec la leur. Je voulus me mettre au niveau de leurs ajustements et demander à emprunter un chapeau ou un bonnet. Il n'y eut pas moyen d'en avoir. Madame Duval n'en porte jamais. Elle appelle cette mode anglaise et barbare. Il fallut donc me résoudre à rester comme j'étais. Nous partîmes tous entassés dans le même carrosse, et n'ayant pas encore oublié les réflexions de M. Brampton, je payai le cocher lorsque nous mîmes pied à terre. Si j'avais été d'une humeur moins chagrine, j'aurais trouvé de quoi rire. Ils n'avaient aucune idée de tout ce qui a rapport à l'opéra. D'abord, ils ignoraient par quelle porte il fallait entrer, et nous rôdâmes pendant longtemps autour de la maison, sans savoir de quel côté nous tourner. Ils ne jugèrent pas à propos de s'adresser à moi, quoique je fusse la seule personne de la partie qui eût été ci-devant à ce spectacle. Ils auraient été fâchés de connaître les endroits publics de Londres, moins que leur cousine la villageoise, comme il leur plaît de me nommer. Quoi qu'il en soit, ce souci ne m'inquiéta guère. Mais je fus plus embarrassée de voir que mon habillement excitait une attention générale. Enfin, nous nous présentâmes au bureau d'un des receveurs. M. Brampton demanda pour quelle place il distribuait des billets. On nous répondit que c'était pour l'amphithéâtre. Le jeune Brampton s'approcha de son père et lui dit « Vous voudrez bien que je régale Misenville ?»« Nous trouverons cela une autre fois, » reprit-il en mettant une guinée sur la table. On lui donna deux billets d'entrée. M. Brampton ouvrit de grands yeux. « Que veulent dire ces deux billets ? » dit-il au receveur. « Il m'en faut davantage. » « Comment, monsieur ? » répliqua celui-ci. « Ne savez-vous pas que le prix est d'une demi-guinée par personne ?»« Oh, dans ce cas, nous nous passerons d'être assis dans l'amphithéâtre. » »« Je crois aussi, » reprit le receveur, « que ces dames seront mieux à la galerie. » M. Brampton s'informa du chemin et nous y conduisit sur le champ. « Quel est le prix des places ? » demanda-t-il à celui qui distribuait les billets. « Comme à l'ordinaire, monsieur, » lui répondit-on. « Changez-moi donc, » dit Brampton en lui remettant sa guinée. « Pour combien de personnes ?»«
Pour six. »«
Pour six, mais vous ne me donnez pas assez. »«
Pas assez ? Combien vous faut-il donc ? Est-ce aussi une demi-guinée par tête ?»«
Non, monsieur, 5 shillings seulement. » Monsieur Brampton empocha encore sa malheureuse pièce, protestant qu'il ne se laisserait point écorcher de la sorte. « Je proposai de retourner chez nous. » Madame Duval s'y opposa. On nous conduisit enfin à une porte de galerie où l'on prit des billets. Madame Duval se plaignit amèrement de la mauvaise place qu'on nous avait choisie et en effet, elle n'avait pas tort car nous étions au paradis. Miss Brampton soutint que les places seraient peut-être meilleures que nous ne le pensions. « Quoi qu'à dire vrai, ajouta-t-elle, l'escalier qui y conduit ne promette pas grand-chose. » Nous entrâmes enfin dans la galerie et alors le murmure devint général. Tout le monde se regarda d'abord sans rien dire, puis on éclata en plainte, chacun à sa façon.
« Eh, papa !» s'écria Miss Brampton. « Quelles places avez-vous choisies ? Nous sommes, je crois, à la galerie d'un escalin. »
« Tu me rendras service si tu veux me tenir quitte à deux escalins par tête. Jamais je n'ai été écorché de la sorte. Ou le caissier est un fripon, ou le public est mis ici à contribution d'une manière criante.
Ma foi, interrompit madame Duval, je n'ai jamais eu d'aussi mauvaise place. Nous sommes assis dans les nues et on ne verra rien d'ici.
Monsieur Monckton, il me semble pourtant que 3 escalins par billet est un prix fort honnête. Vous avez vu que mon intention était de vous mieux placer. M'y avait-il moyen avec ce qu'on demande pour l'entrée? D'ailleurs, je pensais que galerie pour galerie, celle-ci en valait bien une autre et nous verrons toujours quelque chose pour notre argent. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on m'a dupé de la bonne sorte.
Monsieur Branton, fils. Cela ressemble comme 2 gouttes d'eau aux places de 12 sols de Drury Lane.
Miss Branton, je m'attendais à être assise sur de belles chaises, couvertes de je ne sais quelle étoffe et garnies dans le nouveau goût.
Cette conversation fut poussée jusqu'à ce qu'on leva la toile, et alors l'attention se tourna de ce côté-là.
Mes critiques ne considérèrent ni le lieu de la scène, ni les mœurs et le langage des acteurs. Toutes les observations furent calquées sur des comparaisons avec le théâtre anglais. Quelques regrets que j'eusse de me trouver dans cette société, et quelque amer que fût le souvenir de celle que j'avais perdue, j'aurais oublié pourtant ma disgrâce si l'on m'avait laissé écouter tranquillement l'opéra. Mais leur impitoyable caquet ne discontinua point, et je manquais nombre de beaux airs chantés par la belle voix du signor Emilico, qui m'aurait fait un plaisir infini.
« Comme ces gens-là bredouillent !» s'écria M. Branton. « Je n'entends goutte à ce qu'ils disent. Et pourquoi ne chantent-ils pas tout aussi bien en anglais ?»«
Mais apparemment que le beau monde s'amuserait moins s'il y comprenait quelque chose. »
« M. Branton, fils, le jeu de ces acteurs est bien peu naturel. Qui a jamais vu un anglais faire des gestes pareils ?»
Miss Polly, pour moi je trouve cela assez joli, seulement je ne sais ce que cela veut dire.
Miss Biddy,
belle misère, comme si ces sortes d'explications étaient nécessaires pour s'amuser. Prenez exemple sur Miss Anville, qui semble se divertir au mieux sans y entendre plus que nous.
Un inconnu qui était assis sur le banc du devant eut la politesse d'y faire place pour Miss Branton et moi. Nous acceptâmes son offre et aussitôt Miss Biddy s'écria.
« Voyez donc, ma sœur, comme tous ces gens de l'amphithéâtre sont parés. Pas un seul chapeau, tout le monde en gala. »
« Ah, vraiment, oui !» répondit Miss Polly. « Ce coup d'œil-là est charmant. Cela seul vaudrait la peine d'aller à l'opéra. N'évitons que cela. »
Un coup d'œil dans l'amphithéâtre me fit sentir la perte de ma bonne société. Mylord Orville était alors à côté de Madame Mirvan. Sir Clément avait les yeux tournés vers la première galerie où il me chercha probablement. J'aurais souhaité de rester caché. Mais il me découvrit dans le galetas où j'étais niché. La mauvaise humeur de Madame Duval, les murmures de M. Branton et les réflexions insipides et maussades de ses enfants achevèrent de m'ôter le peu de plaisir que j'aurais pu espérer encore. J'aime naturellement la musique et le chant, mais le caquet perpétuel de mes voisins m'empêcha totalement d'en profiter. Pendant le dernier ballet, j'aperçus Sir Clément à la porte de notre galerie. Sa présence me fit une vraie peine. Je craignis les familiarités des Branton et j'étais humilié d'être trouvé en aussi mauvaise compagnie. Je ne songeais qu'aux moyens de m'en tirer. Dès que Sir Clément fut à portée de se faire entendre, il me demanda la permission de me rendre ses devoirs. Je lui proposai d'aller joindre Madame Mirvan. Il accepta avec empressement et je me tournai vers Madame Duval pour lui dire que la compagnie étant si nombreuse, j'irai demander une place dans le carrosse de Madame Mirvan. Et sans attendre sa réponse, je donnai ma main à Sir Clément et nous sortîmes de la galerie. Madame Duval aura certainement été fâchée de ma retraite, mais Monsieur Branton s'en sera aisément consolé puisqu'elle lui épargne la dépense d'une course de plus. Sir Clément parut extrêmement content et j'étais assez folle pour me réjouir moi-même de la réussite de mon projet. Mais quand nous fûmes descendus, je prévis qu'au milieu de cette foule, il serait difficile de retrouver mes amis et je commençais à avoir de l'inquiétude. Je priai mon conducteur de tâcher d'informer Madame Mirvan que j'avais quitté Madame Duval.
Je crains bien, me répondit-il, que la chose ne soit guère possible. « Mais je me charge, madame, de vous ramener chez vous.
il donna en même temps ordre à son domestique de faire avancer la voiture. Je ne voulus point accepter cette offre et je déclarai à Sir Clément que je ne pensais point à m'en aller sans Madame Mirvan. « Mais comment la trouver ? » me répondit-il. « Vous ne voudrez point entrer dans l'amphithéâtre. Je ne puis y envoyer mon domestique et il est impossible que je vous laisse seul ici pour y retourner moi-même. » Ces raisons étaient sans réplique et il fallut bien m'en contenter. Mais dès que j'eus le temps de me reconnaître un peu, je me décidai à ne point entrer dans sa voiture et je lui dis que je préférais de rejoindre ma société. Il n'en voulut point entendre parler et il me supplia instamment de ne point retirer la confiance que je lui avais témoignée. Pendant cet entretien, je vis Mylord Orville sur notre passage. Dès qu'il m'aperçut, il quitta sa compagnie et vint vers moi en me disant d'un air et d'un ton de surprise. « Bon Dieu, n'est-ce pas Maisonville que je vois ?» Je sentis alors la sottise de ma démarche et l'embarras de ma situation. Je me hâtai de lui dire en balbutiant que j'attendais Madame Mirvan. Mais j'appris, à ma grande confusion, qu'elle était déjà partie. Je ne savais plus quel parti prendre. L'idée de me mettre seule entre les mains de Sir Clément, en présence du Lord, m'était devenue insupportable. Et, d'un autre côté, je ne pus me résoudre à rejoindre les Brankton. Je demeurai indécise et je m'écriai involontairement « Juste ciel, que dois-je faire ?»« De quoi, reprit Sir Clément, vous inquiétez-vous, ma chère dame, vous serez chez vous aussitôt que Madame Mirvan. » Je ne répondis pas du tout. Mylord Orville m'offrit sa voiture. « Elle est ici, madame, et mes gens sont prêts à recevoir les ordres que Maisonville voudra bien leur donner. J'irai chez moi en chaise à porteur et je vous supplie... » Je fus infiniment sensible à une offre si polie, faite avec tant de délicatesse. Je l'eusse acceptée volontiers, mais je n'osais. Sir Clément ne laissa pas même achever le Lord. Il interrompit avec humeur en disant « My Lord, j'ai déjà fait avancer mon carrosse. » Son domestique vint justement lui dire que le cocher était à la porte. Il me pria de le suivre et il se mit en devoir de prendre ma main. Je la retirai. « De grâce, lui dis-je, ne me forcez pas. Laissez-moi m'en aller en chaise à porteur. »« Cela ne se peut pas, madame, » s'écria Sir Clément. « Voulez-vous que je vous abandonne à des porteurs inconnus ? Que dirait Madame Mirvan ? Venez, je vous en supplie, vous serez rendue chez vous en 5 minutes. » Je balançais encore. Avec quelle joie n'aurais-je pas voulu rejoindre Madame Duval et les Brankton, si ce n'eût été à cause de Mylord Orville ? Mais je me flatte qu'il remarquait mon trouble et qu'il me plaignait. Car il me dit du ton de voix le plus doux « Il serait superflu, madame, d'offrir mes services en présence de Sir Clément Willoughby. Mais vous ne doutez pas, j'espère, combien je serais heureux si je pouvais vous être de la moindre utilité. » Je le remerciai. Sir Clément me pressa instamment de partir. Dans ce moment de crise, l'opéra finit et le monde sortait en foule. J'entendis en même temps la voix de Madame Duval qui descendait de la galerie. Si Mylord Orville avait répété son offre, je l'eusse acceptée malgré Sir Clément. Je n'avais plus un instant à perdre. « Vite, m'écriai-je, s'il faut que je parte !» Je m'arrêtai là, mais Sir Clément prit ma main, me fit monter dans sa voiture, s'y jeta lui-même et cria au cocher « Dans le Queen Street !» Mylord Orville me salua en souriant et me souhaita le bonsoir. Il faut avouer qu'il me quitta là dans une situation des plus ridicules. J'en eus bien du chagrin et j'étais résolue de ne pas ouvrir la bouche pendant tout le chemin. Mais Sir Clément trouva bientôt le moyen de me faire parler. Il débuta par me faire ses plaintes de la répugnance que j'avais eue de me confier à lui et il en demanda mes raisons. Faute d'avoir une meilleure réponse prête, je lui dis que j'avais crainte de lui faire perdre son temps. « Ah ! S'écria-t-il en s'emparant de ma main, si vous saviez avec quel ravissement je vous consacrerais tous les moments de ma vie, vous ne m'offenseriez point par une telle excuse. » Il continua dans ce beau style sans que j'eusse le courage de lui répondre un seul mot. J'essayai seulement de dégager ma main, qu'il serra malgré mes efforts entre les siennes. Un moment après, il me dit qu'il croyait que le cocher s'était détourné du chemin. Il appela son domestique et lui donna des ordres. Puis il reprit ses propos. Combien de fois et avec quelle assiduité n'ai-je pas cherché l'occasion de vous parler, madame, sans témoin, du moins sans la présence du brutal capitaine. La fortune me favorise dans cet instant. Permettez que je ne le laisse pas échapper. Permettez que je vous jure combien je vous adore. » Cette déclaration inattendue était un coup de foudre pour moi. Je gardai un instant le silence et, dès que je fus revenu, je lui dis « Monsieur, si vous vous êtes proposé de me faire regretter d'avoir quitté imprudemment ma compagnie, vous réussissez à merveille. »« Ma très chère miss, s'écria-t-il, pouvez-vous être si cruelle? Votre caractère démenterait-il votre physionomie? Ce coloris de rose qui anime vos belles joues serait-il moins l'effet de la douceur que de la beauté ?»« Monsieur, interrompis-je, tout cela est bien beau, mais nous en avons eu assez déjà au Ridotto et je ne pensais pas que vous reprendriez cette conversation de si tôt. » Ce que je dis alors, ma belle enfant, n'était qu'une malheureuse méprise, l'idée profane que votre esprit n'égalait pas votre beauté. Mais à présent que je trouve combien je me suis trompée grossièrement, toutes les paroles, toute l'énergie des termes ne suffisent pas pour exprimer l'admiration que m'inspirent vos perfections. À moins que vos paroles ne soient bien peu d'accord avec vos idées, vous ne pouvez pas vous imaginer, monsieur, que j'ajoute foi à des éloges que je suis loin de mériter. » Cette réponse, prononcée d'un grand sérieux, donna lieu à de nouvelles protestations plus fortes que les premières. Et moi, sans y faire la moindre attention, je marquai ma surprise de ce que nous n'étions pas encore dans le Queen Street, et je priai Sir Clément d'ordonner au cocher de doubler le pas. « Et ce petit moment, le premier de mon bonheur, vous paraît-il déjà trop long ? Il faut que cet homme ait manqué le chemin, sans quoi nous devrions déjà être au bout de notre course. Laissez-moi lui parler. » « Pensez-vous que je sois mon ennemi jusqu'à ce point ? Si mon bon génie a inspiré cet homme de faire durer mon bonheur, croyez-vous que je détruirai moi-même l'ouvrage d'un aussi heureux hasard ?» Je commençais à craindre que le cocher ne se fût détourné du chemin par un ordre exprès, et cette idée me jeta dans de vives alarmes. Je baissai la glace et je fis un effort pour ouvrir la portière dans l'intention de sauter dans la rue. Sir Clément me retint. « Au nom du ciel, qu'allez-vous faire ?»« Je l'ignore moi-même, m'écriai-je tout essoufflé, mais je suis sûre que cet homme s'est égaré, et si vous refusez de lui parler, je sors de la voiture dans le moment même. » « Vous m'effrayez !» Il tenait toujours mes deux mains. « Qu'avez-vous à craindre? Vous défiez-vous de mon honneur ?»« Non, monsieur, du tout. Mais madame Mirvan, comme elle s'inquiétera ?»« Pourquoi ces alarmes, mon très cher ange? Que craignez-vous? Ma vie vous est entièrement dévouée. Ma protection ne vous suffit-elle pas ?» Et en même temps, il me baisa la main. Jamais je n'ai été dans une telle transe. Je m'arrachai d'entre ses bras et je mis ma tête à la portière pour crier au cocher d'arrêter. Dieu sait dans quel quartier de Londres il nous avait menés. Je ne vis âme vivante sans quoi j'eusse appelé au secours. Sir Clément tâcha de son mieux de m'apaiser, mais il ne réussit guère. « Si votre intention, m'écriai-je, n'est pas de m'assassiner, laissez-moi descendre par pitié. » « Calmez-vous, me répondit-il, ma très chère vie, je ferai tout ce que vous souhaiterez. » Et il appela lui-même le cocher pour lui dire de faire diligence. « Cet imbécile, continua-t-il, m'a sûrement mal compris, mais il ne tardera plus. J'espère seulement que vous serez plus tranquille à présent. » Je gardai le silence et je guettai attentivement le chemin que nous prenions. Cette précaution ne m'avança pas de beaucoup, je connais trop peu les rues de Londres pour les distinguer. Sir Clément se répandit en protestations d'honneur et en assurances de respect. Il me demanda pardon de m'avoir offensé et il me conjura de ne pas prendre mauvaise opinion de lui. Je ne fis aucune réponse, je le craignais trop pour lui faire des reproches et j'étais trop fâchée pour lui parler avec bonté. Nous avions couru plusieurs rues quand, saisi de frayeur, je l'entendis crier tout d'un coup au cocher de faire halte. « Miss Anville, me dit-il, vous voici à 20 pas de votre maison. » « Je ne saurais vous quitter avant que vous ayez eu la générosité de me pardonner. Promettez-moi de ne rien découvrir de ce qui s'est passé à madame Mirvan. » Je balançai entre la crainte et l'indignation. « Ce silence affecté augmente le regret que j'ai de vous avoir déplu et me prouve le peu de fond que je puis faire sur la faveur que je vous demande. Je suis dans une fâcheuse extrémité. Il ne me convient pas de vous faire la promesse que vous exigez, et cependant, je n'ose vous refuser. Je ne vous presserai pas davantage, Miss Anville, et loin de vous extorquer votre promesse, je me remets entièrement à votre générosité. Cette démarche servit à m'adoucir. Il ne se fut pas plutôt aperçu de cet avantage qu'il chercha à s'en prévaloir. Il se jeta à mes genoux et il me fit ses excuses dans des termes si respectueux qu'en vérité je ne pus m'empêcher de lui pardonner. Je rougissais de le voir dans une posture si humiliante. Et pour terminer la scène, je lui promis encore de ne pas me plaindre de lui à Madame Mirvan. J'aurais dû peut-être ressentir avec plus de sévérité la conduite téméraire de Sir Clément. Mais c'était par mon imprudence et mon orgueil que je m'étais exposée. J'aurais grand soin de ne plus me trouver seule avec lui. Nous arrivâmes enfin à la porte de notre maison, et dans l'excès de ma joie, je lui aurais sûrement pardonné si je ne l'avais déjà fait auparavant. Pendant que nous montâmes l'escalier, il querella beaucoup son cocher du grand détour qu'il avait fait. Miss Mirvan vint à ma rencontre. Elle fut suivie de Mylord Orville. Toute ma joie s'évanouit et se changea en honte et en confusion. Mylord Orville m'avait vu partir avec Sir Clément. Il savait combien de temps j'étais restée avec lui. Ce calcul me suffoquait et je n'avais aucune raison à alléguer pour me justifier. Toute la famille me fit l'accueil le plus gracieux. Le lord leur avait dit que je n'étais plus avec Madame Duval et ils étaient fort surpris de ce que je tardais tant à revenir. Sir Clément fit semblant de s'emporter et leur dit que son cocher, l'ayant mal compris, nous avait conduits au bout de Piccadilly. Je n'eus le temps que de rougir, et sans oser le contredire, je ne voulus pourtant pas ratifier un compte auquel je n'ajoutais aucune foi. Mylord Orville me félicita poliment de ce que les embarras de cette soirée s'étaient terminés aussi heureusement, et il ajouta qu'il n'avait pu prendre sur lui de se retirer sans avoir de mes nouvelles. Il s'en alla bientôt avec Sir Clément. Dès qu'il fut reparti, Madame Mirvan me reprit avec beaucoup de douceur de ce que j'avais quitté Madame Duval. Je lui promis d'être plus circonspecte à l'avenir, et assurément je tiendrai parole. Les aventures de la journée avaient gâté mon sommeil pour toute la nuit. Je ne pus fermer l'œil. Qui sait si Mylord Orville ne s'imagine pas que mon entrevue avec Sir Clément dans la galerie était un projet concerté? Qui sait s'il ne me soupçonne pas d'avoir donné les mains à cette longue promenade nocturne? Si du moins j'avais paru mécontente de la prétendue bévue du cocher? Mais que dire de son attention à venir encore me demander ce soir de mes nouvelles? Si j'y entrevois un peu de défiance, elle ne prouve pas moins quelques inquiétudes de sa part. En effet, Miss Mirvan m'a dit qu'il avait été inquiet de ce que je tardais tant à arriver, qu'il s'en était même impatienté. Si ce n'était pas trop me flatter, je croirais presque qu'il a deviné les desseins de Sir Clément et qu'il était en peine pour moi. Quelle longue lettre ! J'espère cependant que ce sera une des dernières que je vous écrirai de Londres, car j'ai entendu dire ce matin au capitaine que nous partirions mardi prochain. Madame Duval sera informée de cet arrangement dès aujourd'hui. Elle vient dîner avec nous. Comment a-t-elle pu accepter l'invitation de Madame Mirvan après la scène qu'elle a eue hier avec le capitaine? Vraisemblablement, ce sera moi qui essuierai aujourd'hui toute sa mauvaise humeur. Je m'y soumettrai patiemment puisque je l'ai mérité. Adieu, mon très cher monsieur. Si cette lettre encourait votre censure, je me repentirai bien plus encore de la conduite imprudente dont je vous ai fait l'aveu. Lettre 22. Suite de la lettre d'Evelina. Lundi matin, 18 avril. Madame Mirvan m'a communiqué une anecdote de Mylord Orville qui m'a fait autant de plaisir que de peine. Il lui a dit à l'opéra qu'il avait été extrêmement choqué des procédés impertinents que Lovell s'était permis à mon égard à la comédie, qu'il avait pris ses mesures en conséquence et qu'il pouvait avoir la satisfaction d'assurer Madame Mirvan que nous n'aurions plus rien à craindre de la part de cet étourdi. Elle le pria de s'expliquer. Elle espérait qu'il n'aurait point fait une attention sérieuse à une affaire d'aussi peu de conséquences. De pareilles incartades, a-t-il répondu, exigent une prompte correction, car pour peu qu'on les souffre, on encourage le coupable. Madame Mirvan excusera la liberté que j'ai prise de me mêler de cette affaire. Mais puisque j'ai eu l'honneur de danser avec Miss Anville, je devais me considérer en quelque façon comme partie intéressée, et il ne me convenait plus d'être neutre. Il ajouta qu'il avait été trouver M. Lovell le lendemain du spectacle et que leur entrevue s'était terminée fort amicalement. Il en supprima les détails et il se contenta d'assurer Mme Mirvan qu'il avait pourvu à ma tranquillité pour l'avenir, puisque M. Lovell lui avait engagé sa parole d'honneur de ne plus faire mention de ce qui s'était passé au bal de Mme Stanley. Mme Mirvan le félicita d'un succès aussi heureux et elle le remercia de l'intérêt obligeant qu'il avait pris à sa jeune amie. « Il serait inutile, continua-t-il, de vous recommander un secret absolu sur cette aventure. Je serais fâché qu'elle transpirât. Mais j'ai cru qu'il était de mon devoir de faire rentrer M. Lovell dans les bornes du respect qu'il doit à vous, madame, et à la jeune demoiselle qui est sous votre protection. » Si j'avais été informée plus tôt de cette visite de Mylord Orville, elle m'aurait donné bien des inquiétudes. J'avoue cependant que je suis infiniment flattée des soins généreux qu'il a pris pour me mettre à l'abri des insultes de M. Lovell. Cette démarche prouve du moins qu'il n'a pas de moi une idée tout à fait désavantageuse. Peut-être aussi, hélas, ne prouve-t-elle rien. Il est très possible que le Lord n'ait eu en vue que de satisfaire sa propre délicatesse. J'admire le calme et le sang-froid du vrai courage. Qui eût dit, en voyant Mylord Orville à la comédie, qu'il pousserait son ressentiment jusqu'à ce point? Il est vrai pourtant qu'il marqua son mécontentement d'une manière assez visible, et il n'y eut, je crois, que sa bravoure réelle et sa politesse qui l'empêchèrent d'en venir à des explications en notre présence. Madame Duval, comme je l'avais prévu, était hier fort en colère contre moi. Elle m'a grondé pendant près de 2 heures de ce que je m'étais avisé de la quitter sans attendre même sa réponse. Elle me menaça de ne plus paraître avec moi en public si je retombais encore dans la même faute. Sir Clément lui a également déplu parce qu'il ne lui a point adressé la parole et que d'ailleurs il la contrecarre toujours dans ses disputes avec le capitaine. Celui-ci crut de son honneur d'épouser la querelle de son ami. Et là-dessus, il se forma une contestation dans le style ordinaire. Après le dîner, Madame Mirvan fit tourner la conversation sur notre prochain départ de Londres. Madame Duval nous dit qu'elle comptait d'y rester encore une couple de mois. Le capitaine lui répondit qu'elle serait la maîtresse, mais qu'il partait avec sa famille mardi prochain pour la campagne. Cette ouverture amena une scène des plus désagréables. Madame Duval voulait absolument que je restasse avec elle en ville. Mais Madame Mirvan lui fit sentir qu'étant déjà engagée à faire visite à Lady Howard, d'où je ne m'étais absentée que pour quelques jours, je devais y retourner de toute nécessité. J'espérais que Madame Mirvan gagnerait Madame Duval à force d'honnêteté et de douceur. Mais l'incartade du capitaine gâta tout. Il ne laissa pas échapper la moindre occasion de l'irriter, et il la traita encore avec tant de grossièreté qu'elle finit par jurer qu'elle plaiderait plutôt que de se séparer de moi. Je tiens ces particularités de Madame Mirvan. Elle avait eu l'attention de me fournir un prétexte pour quitter la chambre dès que la dispute commença. Ma présence aurait sans doute engagé Madame Duval à faire valoir son autorité et à exiger mon obéissance à ses volontés. Le résultat de cette conversation fut que, pour aplanir toutes les difficultés, elle serait du voyage de Howard Grove. Nous nous y rendrons décidément mercredi prochain. Madame Mirvan écrit actuellement à Lady Howard pour la préparer à l'arrivée inattendue de notre compagne de voyage. Sans cette précaution, l'apparition de Madame Duval pourrait bien exciter une surprise peu agréable. Je ne saurais assez me louer de cette chère Madame Mirvan. Elle s'étudie sans cesse à me rendre heureuse. Nous allons ce soir au Panthéon. C'est notre dernière partie de plaisir à Londres. Dans ce moment, je reçois votre lettre pleine de bonté. Si la première semaine de notre séjour à Londres vous a paru dissipée, que sera-ce de celle-ci? En attendant, le Panthéon de ce soir sera probablement la clôture de nos amusements publics. Quoique je n'aie jamais douté de votre appui et de votre protection contre les violences de Madame Duval, les assurances réitérées que vous m'en donnez n'exigent pas moins toute ma reconnaissance. Accoutumée à être l'enfant chéri de votre maison, l'objet heureux de vos bontés, comment aurais-je pu me résoudre à devenir l'esclave des caprices tyranniques de cette femme ? Pardon si je me sers de quelques expressions trop fortes, mais l'idée de passer ma vie avec Madame Duval et le parallèle qui en résulte effacent d'un seul trait tous les sentiments que je puis lui devoir. Vous me dites, monsieur, que vous êtes mécontent de Sœur Clément. Je suppose que sa conduite au sortir de l'opéra ne vous aura pas réconcilié avec lui. Plus j'y réfléchis et plus j'en suis fâchée. J'étais entièrement en son pouvoir et il a eu le plus grand tort d'abuser si cruellement de ma détresse. Ah, si je pouvais mériter, mon très cher monsieur, les vœux et les prières que vous faites pour moi, tous les désirs de mon cœur seraient remplis. Je tremble à présent que je ne suis pas à portée de recevoir vos sages directions. Vous ne me trouviez plus faible et plus imparfaite que vous ne le pensiez. Les soins de la toilette m'obligent à finir. Lettre 23. Continuation de la lettre d'Evelina. Mardi 29 avril. Je me sens aujourd'hui un fond de mélancolie à laquelle je ne suis pas accoutumée. Le moment approche où nous allons quitter Londres et déjà nous sommes occupés des préparatifs du voyage. Cette lettre terminera donc le récit de mes aventures de la capitale. Dès que vous aurez complété mon journal, je vous prie, mon cher monsieur, de me dire ce que vous en pensez. Ne m'épargnez pas vos remarques. Nous nous sommes rendus au Panthéon vers les 8 heures. J'ai été frappé de la beauté du bâtiment qui surpassait de beaucoup mon attente. Il ressemble plus à une chapelle qu'à un endroit destiné au plaisir. Charmé de la magnificence de la salle, je n'y retrouvais ni la gaieté ni la frivolité de Ranelagh. Je dirais plutôt qu'elle a quelque chose de solennel qui dispose au respect. Mais peut-être pourtant ne produit-elle cet effet que sur une novice comme moi. Notre partie était composée du capitaine, de Madame et de Miss Mirvan. Madame Duval passa la journée dans la cité et je n'en fus pas fâchée. L'assemblée était nombreuse. La première personne que nous vîmes fut Sir Clément Willoughby. Il nous joignit avec sa familiarité ordinaire et il ne nous quitta plus de la soirée. Sa présence m'embarrassait. Je ne pouvais le regarder ni l'entendre parler sans me rappeler l'aventure du carrosse. Mais, à ma grande surprise, il ne parut pas déconcerté du tout, quelque forte raison qu'il eût de rougir de sa conduite. Cette effronterie me fit regretter la facilité avec laquelle je lui avais pardonné. Un peu plus de rigueur aurait servi du moins à le rendre plus circonspect. On exécuta, au milieu d'un babil perpétuel, un très bon concert. J'ai trouvé en général peu de tranquillité dans ceux auxquels j'ai assisté. Tout le monde admire la musique et personne ne l'écoute. Nous ne vîmes Mylord Orville que dans la salle à thé qui est dans un vaste souterrain. Il vint auprès de nous. Je crois qu'il était engagé dans une grande compagnie de dames. Je remarquai M. Lovell parmi les hommes qui en étaient. J'étais indécise s'il convenait de remercier Mylord Orville de la manière généreuse dont il m'avait délivré des persécutions de cet homme. Comme il avait informé Mme Mirvan de sa démarche dans le dessein de me la confier, je craignis qu'il y eût de l'ingratitude à la passer sous silence. J'aurais pu cependant m'épargner la peine de cette incertitude, puisque je n'eus pas une seule fois l'occasion de parler sans être entendu de Sir Clément. Celui-ci se montra extrêmement officieux, et à chaque parole que je disais, il s'inclinait vers moi avec autant d'empressement que si je m'étais adressé à lui en particulier. Ce n'était pourtant pas mon intention, car loin d'entrer en conversation avec lui, je ne daignais pas le regarder. Madame Mirvan, sans être instruite de l'aventure de l'opéra, désapprouva d'ailleurs la trop grande assiduité de Sir Clément. Elle m'a fait observer qu'il est indécent qu'une jeune demoiselle paraisse si souvent en public avec le même cavalier. Et je suis persuadée qu'elle en parlerait au capitaine si notre séjour à Londres était de quelque durée. C'est toujours M. Mirvan qui introduit Sir Clément dans nos parties. Ses airs de familiarité ne suffiraient pas pour l'y faire admettre. À la table de Mylord Orville se trouvait un gentilhomme, je l'appelle ainsi parce qu'il était en si bonne compagnie, qui, depuis le moment que j'eus pris place, me regarda fixement en face, sans détourner les yeux, pendant tout le temps qu'on servit le thé. Il devait s'apercevoir aisément que j'étais choquée d'un procédé aussi peu mesuré. Et en effet, j'étais surprise de ce qu'un homme de la société de Mylord Orville pût se permettre des libertés aussi insultantes. J'avais mauvaise opinion de son éducation, et mes soupçons furent confirmés quand je lui entendis dire à l'oreille de Sir Clément, mais assez haut pour que je n'en perdisse rien, « Au nom du ciel, Willoughby, qui est cette charmante créature ?» Je fus curieuse de la réponse et je demeurai aux écoutes en tournant la tête d'un autre côté. Sir Clément m'étonna un peu en disant à l'inconnu « Je ne vous dirai pas, Mylord, qui elle est, je l'ignore moi-même. » Un Mylord ! Quelle singularité qu'un homme de distinction, accoutumé selon les apparences, depuis sa plus tendre jeunesse, à fréquenter les premières sociétés du royaume, puisse manquer de bonnes manières, on trouverait moins extraordinaire qu'il fût sans mœurs et sans principes. Sir Clément lui-même semblait modeste en comparaison de ce personnage. Pendant le thé, la conversation roula sur le temps, les modes, les endroits publics, et les deux tables y prirent également part. Sir Clément y donna lieu en demandant à Miss Mirvan et à moi si le Panthéon avait rempli notre attente. Nous lui répondîmes unanimement qu'il l'a surpassé de beaucoup. « Et supposez, dit le capitaine, qu'elles ne s'y plussent pas, croyez-vous qu'elles en conviendraient ? Il faut bien que ce qui est à la mode soit de bon goût, cela est tout clair. Sans quoi je veux être berné si elles n'avoueraient que c'est l'endroit le plus maussade qu'elles aient jamais vu. » « La beauté de ce bâtiment, reprit Mylord Orville, ne désarme-t-elle pas votre critique ? Vos yeux ne vous disent-ils rien en sa faveur ?»« Mes yeux ? S'écria le lord dont je ne connais pas le nom. Et qui peut s'en servir pour contempler des murailles et des statues inanimées, tandis que les objets vivants que je vois devant moi excitent l'admiration la plus réfléchie ?»« Monsieur Orville, personne n'est assez insensé pour comparer les charmes puissants de la nature à la symétrie d'une architecture, quelque supérieure qu'en soit le dessin et les rapports. Mais quand on peut réunir, comme ici, sous un même coup d'œil, l'art dans tous ses chefs-d'œuvre et la nature dans toutes ses perfections, je crois qu'on en est d'autant plus heureux. » Sir Clément. Sans doute, Mylord, que l'œil tranquille d'un philosophe impartial peut embrasser l'un et l'autre avec autant d'attention que de sûreté. Mais lorsque le cœur n'est pas aussi bien sur ses gardes, il se mêle aisément de la partie. Et dès lors, l'objet choisi est le seul auquel il s'arrête. Tout le reste lui paraît indifférent et insipide. Mylord Orville. À Dieu ne plaise que je veuille disputer à la beauté son pouvoir magnétique. J'avoue volontiers que, quoique nous n'ayons plus de bâtiments publics pour y placer nos dieux comme autrefois, nous avons du moins conservé nos déesses, devant lesquelles nous fléchissons le genou de bien bon cœur. » Il prononça ces paroles d'un grand air de gaieté et il fit en même temps la révérence aux dames. Le capitaine. « Elles ne sont pas déesses pour rien, car elles nous font payer diablement cher le plaisir de les voir. Au reste, je voudrais bien que vous me montrassiez ici un visage dont la simple vue valut une demi-guinée. » L'inconnu. Une demi-guinée, je donnerais la moitié de mon bien pour la vue d'une seule d'entre elles, à condition qu'il me fût permis de choisir. Peut-on mieux employer son argent qu'au service d'une belle femme ? Sir Clément. Si vos dames, mon capitaine, vous passent ce propos, vous pouvez vous flatter de trouver grâce devant toutes les autres. Mylord Orville. Les dames de la société du capitaine lui pardonneront aisément. Il est impossible qu'elles se croient offensées. Le capitaine. Il faudrait qu'elles fussent furieusement entichées d'elles-mêmes si elles prenaient toutes vos douceurs pour de l'argent comptant. Mais, après tout, je voudrais bien qu'un de vous autres connaisseurs me fît le plaisir de me dire quelle espèce d'amusement un endroit comme celui-ci peut donner à un homme qui, depuis longtemps, est las de courir après les beaux visages. » Tout le monde se mit à rire, mais personne ne répondit. Le capitaine. « Eh bien, nous voilà tous ébaubis, et personne de vous ne peut me résoudre cette question. Je soutiens donc que vous ne venez ici que pour faire parade de vos minois. Encore une bonne moitié est-elle honnêtement laide. Et l'autre, Dieu me pardonne, semble à peine tenir à l'espèce humaine. Monsieur Lovel, il ne nous convient pas, monsieur, de décider ce qui peut amener ici les dames. Mais quant à nous, je crois que nous n'y venons que dans le dessein de les admirer. Le capitaine. Si je ne me trompe, vous êtes le même que je vis l'autre soir à la comédie, n'est-ce pas ? Monsieur Lovel fit une inclination. Le capitaine. Ah, ça, messieurs, il faut que je vous conte un trait impayable. À la fin du spectacle, ce galant homme nous demanda quelle était la pièce que l'on venait de jouer. Que je meure si je vous mens. Monsieur Lovel, si vous étiez fait comme moi au ton de la capitale, ce qui, je présume, n'est pas trop votre cas, cela ne vous paraîtrait pas si extraordinaire. Le capitaine. Comment, pas extraordinaire ? Si cela arrivait tous les jours, je conseillerais par la Sambleu d'envoyer ces gaillards à l'école s'amuser avec des contes de ma mère loi plutôt que de mettre le nez au spectacle. Vive, morbleu, la comédie ! Ce n'est que là qu'on retrouve encore un grain de bon sens, car pour les autres endroits publics, je n'en donnerai pas un zeste. Par exemple, vos opéras, je voudrais bien savoir ce qu'il peut y avoir de joli. Mylord Orville était très en état de répondre, mais il crut qu'il ne valait pas la peine d'entrer en contestation avec le capitaine sur un sujet auquel il n'entendait rien et qu'il sentait tout aussi peu. Il se tourna donc vers nous et dit « Ces dames sont si tranquilles et nous nous emparons seuls de la conversation sans considérer que nous nous faisons le plus grand tort. »« Je serais charmé, ajouta-t-il en s'adressant à Miss Mirvan, de savoir quelle est l'idée que ces jeunes demoiselles ont de nos spectacles. Ces objets doivent être tout nouveaux pour elles. » Nous lui avouâmes toutes deux que nous nous étions mieux divertis à l'opéra que partout ailleurs. Nous eussions mieux fait de nous taire, car le capitaine, mécontent de notre réponse, nous coupa aussitôt la parole. Qu'allez-vous demander là à ces filles ? Croyez-vous qu'elles sachent jamais ce qu'elles veulent ? Nommez-leur tel amusement qu'il vous plaira, et vous êtes sûr qu'elles le trouveront supérieurement beau. C'est une espèce de perroquet qui ont un babil d'instinct et qui se répètent l'une l'autre. Mais parlez-leur de cuisine, d'affaires de ménage, et vous verrez comme elles seront embarrassées. Quant à ces opéras, je prétends absolument qu'ils doivent leur déplaire. Ce sont de pures sottises. Et vous surtout, Marion, je vous conseille, si vous faites quelques cas de mes bonnes grâces, de ne plus avoir un goût à vous en ma présence. Le monde est assez rempli de fous sans que vous en augmentiez le nombre et je ne veux pas qu'il soit dit que ma fille approuve ces sortes de fadaises. C'est une honte qu'on ne les abolisse pas. Et si on me laissait faire, je casserais la tête à tous les magistrats qui s'aviseraient de les tolérer. Si vous avez envie de louer la comédie, passe encore, car je l'aime aussi. Cette réprimande nous ferma la bouche à toutes deux pour le reste de la soirée. Elle produisit même pendant quelques minutes un silence général. Il fut interrompu par M. Lovel, qui n'avait pas envie de laisser échapper l'occasion de riposter au sarcasme du capitaine. « Je ne suis pas surpris, monsieur, dit-il, de ce que nos amusements les moins recherchés soient précisément ceux qui vous plaisent le plus. Et parmi ceux-ci, c'est la comédie qui se retrouve le plus aisément en province. Chaque village a presque sa troupe de comédiens et une grange en forme de théâtre. La représentation des pièces est encore partout la même. L'homme de rang y prend part aussi bien que la populace. On est rassemblés pêle-mêle dans un même cercle. Il n'y a pas d'endroit où les distinctions soient moins marquées. » Le capitaine avait l'air de ruminer le sens de la réflexion de M. Lovel. Mais Mylord Orville, pour le distraire, changea de conversation et lui demanda ce qu'il pensait du cabinet de Cox. « Je pense, répondit-il, qu'il ne vaut pas la peine qu'on y pense. Je n'aime point toutes ces fadaises-là. Cela est bon pour des singes, et encore en ferait-il peut-être la grimace. » Madame Mirvan demanda à Mylord ce qu'il pensait lui-même de cette collection. « J'en admire le mécanisme qui est des plus ingénieux. C'est dommage seulement qu'on n'en ait pas tiré un meilleur parti. Mais le but de tous ces ouvrages est si frivole, si éloigné de toute instruction et de toute utilité, qu'on ne peut s'empêcher, en quittant ce cabinet, de regretter que tant de travail et d'adresse soient si mal employés.
Le fait est, répliqua le capitaine, que dans cette grande ville, il n'existe pas un seul endroit public, excepté la Comédie, où un homme, c'est-à-dire un homme qui mérite effectivement d'en porter le nom, n'est à rougir de mettre le nez. L'autre jour, ils m'ont fait aller au Ridotto. Mais je vous proteste qu'on ne m'y reverra pas de sitôt. J'aimerais autant commander un équipage de matelots français. Après cela, vous avez votre Ranelagh dont vous faites tant de bruit. C'est bien encore l'endroit le plus ennuyant de la terre. Il est pire que tous les autres.
Ranelagh ennuyant ? Répéta-t-on de bouche en bouche.
Et les dames, comme si elles s'étaient donné le mot, regardèrent toutes le capitaine avec un sourire moqueur.
L'entrée, reprit M. Lovel, y est à bon marché. Mais cet endroit n'est pas fait pour le vulgaire. À moins qu'on y apporte une certaine connaissance du grand monde, un goût sûr, des liaisons avec les gens du bon ton, on doit s'y ennuyer de toute nécessité.
Ranelagh, s'écria le lord inconnu, est un endroit divin, un vrai paradis. Nous devrions y faire un tour encore ce soir.
Mais sans doute, il n'est que 10 heures, ajouta M. Lovel en tirant une belle montre.
Les dames furent bientôt d'accord.
Comment diable ? Interrompit le capitaine en s'appuyant les 2 coudes sur la table. Vous allez courir à Ranelagh à cette heure-ci ?
Et pourquoi non ? Lui demanda l'inconnu.
J'espère que vous serez de la partie. Du moins, nous ne relâchons pas vos dames.
Moi, que j'aille à Ranelagh, je voudrais plutôt.
Le même lord me dit qu'il se flattait que j'irais. Je lui répondis que je ne le croyais pas.
Oh, vous ne serez pas aussi cruel.
Et en prenant ma main, il me débita toutes les belles paroles et toutes les douceurs qu'un païen peut dire à son idole. Je retirai ma main aussi vite que je pus. Mais il la reprenait à chaque moment, et j'en fus d'autant plus confuse que Mylord Orville m'observait d'un air fort sérieux.
N'avais-je pas raison, monsieur, d'être choqué de ce ton de familiarité ?
Il n'appartenait point à ce lord, malgré son rang, de me traiter aussi cavalièrement.
Sir Clément me paraissait être mal à son aise. Pendant ce temps, tout le monde fit ses efforts pour engager le capitaine de nous accompagner à Ranelagh, et le lord me dit que je lui déchirerais le cœur si je refusais d'y venir.
Pendant cette conversation, M. Lovel s'approcha de moi, et, en affectant un air de surprise, il me salua et me demanda des nouvelles de ma santé, en protestant sur son honneur qu'il ne m'avait pas vu plus tôt, sans quoi il n'aurait pas manqué de me rendre ses devoirs. Cette politesse était forcée, mais elle me fit plaisir, puisqu'elle me prouva du moins qu'il avait changé de manières à mon égard.
Le capitaine était toujours également éloigné de se rendre aux instances réitérées qu'on lui faisait de tous côtés. Il jura qu'il ne voulait plus entendre parler de cette partie.
« Mais, lui dit l'inconnu, s'il plaît à ces dames d'y aller prendre le thé, vous nous confierez pourtant le soin de les ramener chez elles. C'est un honneur que chacun de nous ambitionnera. »
Le capitaine y consentit d'assez mauvaise grâce, et après avoir ajouté plusieurs propos désobligeants pour les dames de la société, il lâcha encore quelques sarcasmes des plus déplacés contre la nation française et sortit brusquement. Les dames se retirèrent bientôt après avec la plupart des cavaliers de leur société. Le lord étranger, Sir Clément et Mylord Orville restèrent avec nous. Celui-ci fit plusieurs questions à Madame Mirvan sur notre départ, tandis que l'autre s'épuisait à me dire toutes sortes de jolies choses que j'écoutais avec beaucoup d'indifférence. Je ne pus cependant éviter de lui donner le bras en montant en voiture. Miss Mirvan accepta celui de Sir Clément, qui n'avait pas l'air content.
Quelle différence de caractère et de mœurs dans tous les rangs de la société ! Mylord Orville, d'une politesse qui ne se dément jamais, qui n'accepte personne, est un homme modeste et sans la moindre prétention. On dirait qu'il n'est pas accoutumé au grand monde et il se doute à peine de tant de bonnes qualités qui le distinguent si supérieurement. Cet autre lord, au contraire, quoique prodigue en compliments et en belles paroles, me semble manquer entièrement d'une bonne éducation. Tout ce qui frappe son imagination occupe d'abord toute son attention. Il joint à beaucoup de hardiesse, de la hauteur avec les hommes et un air de libertinage avec les femmes. Fier de son rang, il s'exprime avec une familiarité qui approche de la grossièreté. Nous ne restâmes pas longtemps à Ranelagh. De retour chez nous, nous eûmes à essuyer la mauvaise humeur du capitaine, qui était fort mécontent de la soirée. Je comptais finir ici ma lettre. Mais dans cet instant, nous avons reçu, à ma grande surprise, la visite de Mylord Orville. Il venait, disait-il, pour nous rendre ses respects avant notre départ et pour s'informer de notre retour. Madame Mirvan lui dit que nous passions à la campagne et que, vraisemblablement, ce serait pour y fixer notre séjour. Cette réponse parut lui faire de la peine. Il nous témoigna ses regrets dans des termes si polis, si flatteurs, si sérieux, que j'en fus presque chagrine moi-même. Si je partais directement pour Berry Hill, je suis sûre que je ne sentirais que de la joie. Mais avec ce capitaine et avec Madame Duval, quel plaisir puis-je me promettre à Howard Grove ? Avant l'arrivée de Mylord Orville, Sir Clément s'était fait annoncer. Je l'ai trouvé plus sérieux que de coutume, et il a essayé plusieurs fois de me parler à l'oreille, m'assurant combien il souffrait de mon départ et combien j'emportais ses regrets. Mais j'étais mal disposée et ne lui répondais pas. En attendant, il s'est si bien insinué dans l'esprit du capitaine que celui-ci l'a prié de venir nous voir à Howard Grove. Cette invitation a éclairci sa physionomie et, dans le même moment, Mylord Orville s'est retiré. Sans doute il a dû être choqué d'une distinction aussi impolie et aussi ridicule. Il était malhonnête d'inviter Sir Clément en présence de Mylord Orville sans faire à celui-ci la même politesse. J'en fus bien fâchée et j'ai quitté la chambre peu après lui. Sir Clément est encore resté, mais je ne descendrai pas avant qu'il soit parti. Mylord Orville s'est sans doute aperçu de l'assiduité avec laquelle Sir Clément tâche de me faire sa cour. Et, à en juger par les civilités déplacées du capitaine, il doit supposer que ce soupirant est écouté favorablement. Cette idée me tourmente cruellement, et j'ai beau faire, elle me revient toujours. Adieu, mon très cher monsieur, je vous supplie de m'écrire incessamment. Quelle quantité de longues lettres dans 15 jours de temps! Je n'en écrirai peut-être jamais tant. Elles vous auront furieusement ennuyé. Mais patience, je vous donnerai à présent du repos, car la suite de ma correspondance se bornera probablement à peu de choses. Pardonnez toutes les inepties que je vous ai racontées, toutes les fautes dont je vous ai fait l'aveu. Vous ne m'en aimerez pas moins et vous souffrirez que je me signe également. Votre très obéissante et très affectionnée, Evelina. Lettre 24. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill, 22 avril. Je rends grâce au ciel de ce que je puis de recherche vous adresser mes lettres à Howard Grove. Ah, ma chère Evelina, si vous saviez combien mon cœur a été à la torture pendant votre séjour dans le grand monde, dans quelles alarmes perpétuelles j'ai été. Toujours flottant entre l'espérance et la crainte, j'ai suivi votre journal avec l'attention la plus scrupuleuse depuis le moment où vous avez commencé à le dater de Londres. J'augure mal de Sir Clément Willoughby. Je le regarde comme un homme artificieux et entreprenant. Sa prétendue passion pour vous n'est fondée ni sur la sincérité, ni sur l'honnêteté. La manière dont il s'y est pris et les occasions qu'il a choisies pour vous en entretenir approchent de l'insulte. Sa conduite indigne après l'opéra me prouve suffisamment que, sans le parti violent que vous prîtes, la maison de Madame Mirvan eût été la dernière où il vous aurait conduite. Quel bonheur, mon enfant, que vous ayez échappé à ce danger! Je vous épargnerai mes reproches. Mais il y avait de l'imprudence à vous confier à un homme que vous connaissiez si peu et dont la légèreté devait vous inspirer de la défiance. Le lord, dont vous avez fait la connaissance au Panthéon, m'inquiète beaucoup moins. Un homme dont les manières sont aussi hardies, qui affiche le libertinage aussi ouvertement et qui foule aux pieds jusqu'à ce point toutes les règles de la bienséance, est un être trop méprisable pour qu'il puisse faire la moindre impression sur un cœur tel que celui de mon Evelina. Sir Clément cherche à la vérité d'éviter le scandale, mais la méchanceté de ses intentions n'en perce pas moins. Il sait cacher son jeu et par conséquent il est plus à craindre. Heureusement, il semble n'avoir fait aucun progrès dans vos bonnes grâces. Un peu de précaution et de prudence suffira pour vous mettre à couvert des desseins que je lui suppose. Mylord Orville me paraît appartenir à une meilleure classe de gens. Sa conduite envers l'impertinent Lovell et sa démarche après l'opéra me donnent une idée avantageuse de son esprit et de son cœur. Sans doute qu'il savait quel risque vous couriez entre les mains de ce Sir Clément, et il agit en homme d'honneur en informant tout de suite la famille Mirvan de votre situation. Peu de jeunes gens auraient pris le même intérêt à votre sûreté. La plupart eussent préféré, par une délicatesse malentendue, de laisser une jeune innocente à la merci d'un ami libertin, plutôt que de s'exposer à se brouiller avec lui en lui arrachant sa proie. J'ai prévu que vous auriez de la peine à quitter Londres, mais je voudrais cependant que vous en fussiez moins affecté. J'ai craint d'avance que vous ne prissiez goût à une vie dissipée, qui n'est que trop d'accord avec votre âge et avec votre vivacité. C'est ce qui m'a fait regretter souvent d'avoir donné à ce voyage un consentement que je n'avais pas la force de vous refuser. Hélas, mon enfant, l'ingénuité de votre caractère et la simplicité de votre éducation sont peu faites pour la route épineuse du grand monde. L'obscurité qui reste encore répandue sur votre naissance vous expose à 1000 aventures désagréables. De tout temps, mes projets et mes espérances pour votre condition future se sont bornés à la campagne, et vous l'avouerai-je, quelque différent que puissent être mes principes de ceux du capitaine Mirvan, je pense assez comme lui de la capitale, de ses mœurs, de ses habitants et de ses amusements. Londres me paraît un repère de fourberies et de vices, de duplicité et d'extravagance. Je souhaite sincèrement que vous lui ayez dit adieu pour toujours. Souvenez-vous que je n'entends parler que du genre de vie dissipée qu'on y mène en public. Je ne doute pas qu'on ne retrouve dans l'intérieur des familles autant de piété, d'honnêteté et de vertu que dans nos provinces. Si mon Evelina veut se contenter d'une vie retirée, je suis sûre qu'elle fera toujours l'ornement de son voisinage, l'orgueil et les délices de sa famille. Elle sera aimée dans le cercle étroit des sociétés qui conviendront à son état. Elle choisira des occupations utiles et innocentes qui lui assureront l'affection de ses amis et le suffrage de son cœur. Telles ont été et telles sont encore mes espérances. Ne les trompez pas, ma chère enfant, et marquez-moi bientôt que 15 jours passés à Londres n'ont pas défait l'ouvrage de 17 années. Arthur Villard. Lettre 25. Evelina à Monsieur Villard. Howard Grove, 25 avril. Non, mon cher monsieur, l'ouvrage de tant d'années n'a pas été détruit. Il subsiste toujours tel qu'il était. Et j'espère que 15 jours passés à Londres ne m'auront pas rendu indigne de vos soins paternels. Cependant, je dois l'avouer, je ne suis plus aussi heureuse que je l'étais avant mon départ pour la capitale. Mais ce n'est pas moi qui ai changé, c'est l'endroit de notre séjour. Depuis l'arrivée du capitaine et de Madame Duval, Howard Grove n'est plus ce qu'il était. L'harmonie qui y régnait est troublée, nos projets sont renversés, notre manière de vivre altérée, tous nos plaisirs détruits. Mais ne croyez pas, monsieur, que ce soit Londres qui a causé tant de dégâts. Non, avec des hôtes tels que ceux que nous avons amenés, ce changement était inévitable. J'étais sûre que vous seriez mécontent de Sir Clément Willoughby, et je ne m'étonne nullement de ce que vous en dites. Mais quant à Mylord Orville, je craignais bien que la faible esquisse que j'en ai tracée ne suffirait pas pour vous donner une assez haute idée de son mérite. Je suis ravie cependant d'avoir réussi à lui concilier votre amitié. Oh, si j'avais pu rendre justice à toutes ses bonnes qualités, si j'avais pu vous le représenter tel qu'il paraît à mes yeux, combien vous lui accorderiez d'estime. À l'exception d'une violente querelle entre le capitaine et Madame Duval, il ne s'est passé rien d'essentiel avant notre départ. Monsieur Mirvan s'était proposé de faire la route à cheval, et nous autres femmes, nous devions être placées dans son carrosse. Madame Duval se fit attendre longtemps. Elle arriva enfin, accompagnée de Monsieur Dubois. Le capitaine, qui avait eu tout le loisir de s'impatienter, voulut qu'on partît à l'instant même. Nous montâmes d'abord en voiture, et Madame Duval, appelant Monsieur Dubois, lui dit « Venez, monsieur, il y a encore une place pour vous à côté de ces demoiselles. » Et après nous avoir fait quelques excuses de ce qui nous gênerait, il s'assit entre Miss Mirvan et moi. Le capitaine ne se fut pas plutôt aperçu de cet arrangement qu'il s'approcha de la portière en s'écriant « Comment, sans nous en avoir demandé la permission? Voilà sans doute une coutume française. Mais voulez-vous que je vous en montre une anglaise ? Et prenant M. Dubois par la main, il fit sauter à bas de la voiture. M. Dubois tira aussitôt son épée pour venger cet affront, et le capitaine leva sa canne pour se défendre. Mme Mirvan se jeta entre les deux combattants et elle pria son mari de rentrer dans la maison. Toutes ces représentations furent inutiles. Le français criait à haute voix, dans sa langue, qu'il demandait raison de l'offense. Et M. Mirvan lui répondait en anglais par des jurements. Mme Mirvan vint cependant à bout d'apaiser M. Dubois. Il se montra le plus sage et se retira après nous avoir souhaité un bon voyage. La dispute recommença de plus belle entre le capitaine et Mme Duval, et il fallut encore l'entreprise de Mme Mirvan pour mettre d'accord ces deux têtes échauffées. Enfin, le capitaine monta à cheval et nous partîmes tous. Mme Duval garda sa colère tout le long de la route. De mon côté, je fus fort tranquille. Je ne pus m'empêcher de faire un retour sur moi-même. Hélas, mes dispositions étaient bien différentes de ce qu'elles étaient le jour de mon arrivée à Londres. Lady Howard nous fit l'accueil le plus amical. Son château est le séjour du bonheur, pour peu qu'on ait envie de le trouver. Adieu, mon cher monsieur. J'espère que vous aurez eu la bonté, sans que je vous en ai prié jusqu'ici, de me rappeler au souvenir de tous ceux qui vous demandent de mes nouvelles.